d'écouter les programmes de Studio Kalungu. Il est 17h, l'heure du journal en français. Au micro, Nafis Adam Sirfou. Au sommaire, l'association des jeunes volontaires du Niger qui participent à la COP27 en Égypte ont présenté au cours d'une séance d'échange d'expériences un cas de perte et dommage dans la région de Tillabéri. Le directeur exécutif du JVE est à suivre dans ce journal depuis Sharm el-Sheikh. Environ 400 ménages victimes des inondations de la Komadougou-Yobé à Diffa ont reçu de l'aide financière des ONG. Un des donateurs nous a dit plus dans un instant. Le magazine de ce jour est une coproduction des projets de la Fondation Hirondelle au Sahel. Il parle des attentes des pays sahéliens de la conférence des parties sur les changements climatiques COP27. Bonsoir à tous et bienvenue. Pertes et dommages dans le contexte du Niger, c'est la thématique d'une activité des jeunes volontaires pour l'environnement à la COP27 en Égypte. Il s'agit de partage de bonnes pratiques communautaires, cas de périphérie dans la région de Tillabéri. Les explications avec Sani Ayouba, directeur exécutif du JVE, joint au téléphone par Hilat Soumana.
Périphérie est une colline au sein du village de Tilakena qui était la cause des inondations qu'a connu ce village dans les années 1998. Et les jeunes du village à l'époque avaient initié des activités de réduction de la vitesse des eaux du ruissellement provenant de la colline. Ces activités ont été par la suite intégrées au sein de la communauté qui s'est réunie au sein du groupement Bonferret qui a continué les ouvrages anti-érosifs des 2000 lignes hautes et par la suite avait initié des actions de reboisement. Au départ, il y avait à peu près 0 arbre à l'hectare et aujourd'hui, on constate qu'il y a à peu près 100 arbres à l'hectare. Cette colline sur 80 hectares est clôturée. Les jeunes font de l'ensemencement de la paille, ce qui leur permet de faire de la paille enrichie à l'urée et de pouvoir les revendre. Et les animaux des habitants peuvent venir paître au sein de cet espace moyennant le paiement d'une somme d'entrée, ce qui permet en tout cas au groupement de continuer à mener des activités génératrices de revenus.
Avec le lancement des travaux de la nouvelle mine d'uranium sur le site de Tagza dans la commune de Tchirozirine, les communautés espèrent tirer profit de cette activité. À propos de la question, écoutons le maire de Tchirozirine, Aka Salahan, après une rencontre avec les responsables de l'entreprise canadienne Somida. Il est au micro d'Ahmed Félan.
On a rencontré les différents chefs du village de Tagaza. Les chefs du village ont exprimé tous leurs besoins par rapport à l'éducation, à la santé, à l'hydraulique, au respect de l'environnement. Le directeur de la société a compris que c'est des demandes légitimes, mais il a dit que maintenant, ils vont essayer de résoudre certains problèmes. Ça ne peut pas être fait avant 2025. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais ça, c'est des promesses. Nous, on ne peut pas vraiment croire à ça. Et la réponse qu'ils ont donnée, c'est juste pour dire que ils sont avec des banquiers et c'est ces banquiers qui vont leur prêter l'argent pour les injecter et produire de l'uranium. Maintenant, c'est après la vente de l'uranium qu'ils vont maintenant penser aux investissements au niveau des différents villages.
Les activités minières artisanales, c'est-à-dire les exploitations de minerais qui se font avec des techniques et des procédés manuels traditionnels, représentent un danger pour l'environnement. Cependant, des solutions existent pour limiter les risques, explique David Baratou. Il est planétologue, chercheur de l'Institut de recherche pour le développement IRD. Il est interrogé par Hilat Soumana.
Les données scientifiques sont là. Je pense qu'on peut communiquer, et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, par des sites internet, par des réseaux sociaux, sur les risques de l'activité minière artisanale. Mais c'est aussi important de communiquer sur les réalités de l'expansion de l'activité minière pour qu'ensuite les gouvernements se saisissent de ce problème-là. Donc nous, on participe à la cartographie, quelque part, de l'activité minière artisanale. On produit des données qui montrent, comme je l'ai montré au Niger, 40 ans d'histoire d'expansion de l'activité minière, introduction de la cyanuration. Maintenant, on sait qu'en 2009, au Niger, la cyanuration a été introduite. On voit l'expansion des sites de cyanuration. Donc ces histoires-là que l'on raconte, ensuite, on peut très bien les vulgariser auprès du public. Et c'est aussi une forme d'information qui remonte jusqu'au gouvernement. Du coup, par la pression de l'opinion publique, quelque part, être motivé par prendre des mesures de régulation. La solution, de toute façon, ce n'est pas l'interdiction. Elle est dans la régulation, dans l'encouragement de l'activité minière artisanale respectueuse de l'environnement.
La suite de ce journal, la campagne pastorale de cette année est estimée satisfaisante par la direction régionale de l'élevage relativement à celle de 2021. Elle s'est prononcée au vu des visites d'évaluation dans la région. Bourem Halidou, directeur régional de l'élevage de Diffa, est au micro de Guidi Abdrahman.
La situation pastorale, aujourd'hui, nous pensons qu'il y a une amélioration par rapport à la productivité et à la qualité des fourrages par rapport à l'année passée. Comme vous le savez, l'année passée, nous avons eu un déficit de plus de 3 millions de tonnes de matière sèche. Aujourd'hui, nous avons fini l'évaluation et les données sont en traitement. Je n'ai pas de chiffres officiels à vous donner, mais nous avons des tendances. Les tendances de bonne production dans la zone de Bosso, des tendances de bonne production dans la zone de Diffa, mais nous avons des poches d'inquiétude. La zone de Bilabrim, de Goudmaria, où le tapis herbacé a souffert donc de surpâturage, de pression. Ce qui nous menace encore dans cette production, c'est surtout les feux de brousse.
4 des 5 girafes femelles transloquées il y a 3 ans dans la réserve de Gadbeji ont mis bas. Un des girafons est mort à la naissance et selon les spécialistes de l'environnement, cela témoigne de leur acclimatation dans leur nouvel espace de vie. Les détails avec le lieutenant-colonel Maliki Alvouza, il est le directeur de la division de la faune du Niger. Il est interrogé par Ali Tajsir Ahmed.
En 2019, 8 individus de girafes ont été transloqués de la réserve de Kouré vers la réserve biosphère de Gadabiji, dont 5 femelles et 3 mâles. Après 3 ans, il a été enregistré 3 mises au bas. Bien sûr, lors de la translocation de ces 8 individus, l'objectif au départ était de transloquer 20 individus. Et après, nous nous sommes dit qu'il faut d'abord transloquer les 8 là pour voir comment elles vont s'adapter au milieu. Les réflexions se sont poursuivies afin de voir comment augmenter le nombre. Nous sommes en train de voir sur les 11 réserves existantes, celles qui conviennent. S'il y a possibilité, nous allons transloquer d'autres individus dans ces réserves, mais cela ne sera pas réalisé cette année.
L'actualité est toujours en région. Environ 400 ménages touchés par les inondations des eaux de la rivière Komadougou-Yobé de la ville de Diffa et le village de Lada ont bénéficié d'une aide financière de la part d'une organisation internationale. Écoutons Erkoy Boukar, coordonnateur de sécurité de plan international au micro de Guidi Abdrahman.
Nous menons une activité de cash transfert au niveau des populations qui ont été victimes des inondations à l'issue des eaux de la Komadougou. On enregistre aujourd'hui 380 ménages du quartier Charé, Bagara et Lada. Donc au total, 380 ménages seront assistés d'une somme de 32 500 chacun. Donc nous avons commencé et là, on espère que tout le monde sera avec cette somme qui est prévue pour les assister à revoir probablement une assistance en alimentation et en vêtements avec l'arrivée de la période de froid. Donc c'est une assistance de plan international.
Justement, ces derniers jours, on constate des baisses de température qui ne sont pas constantes. Est-ce que c'est le début de la saison sèche-froide? Plus de précisions avec Mme Aminou Nafissa, prévisionniste à la direction de la météorologie nationale. Elle est au micro de Zainab Abdou.
Actuellement, nous sommes en phase de transition entre la saison pluvieuse qui vient à peine de terminer et la saison sèche-froide. Donc, pendant cette phase de transition, les températures ne sont pas assez constantes. Donc nous avons une variation importante au niveau des températures, ce qui fait que nous sentons tantôt de la chaleur, tantôt de la fraîcheur. On espère que d'ici la mi du mois ou bien vers la fin du mois de novembre, qu'il y ait une installation définitive de cette saison pour qu'on puisse observer une constance dans les températures.
Des séances de sensibilisation sur les menstrues sont initiées pour les élèves des classes de CM1 et CM2 du primaire, un sujet que les parents hésitent à aborder avec leurs jeunes filles. Madame Mohamed Zenebou, enseignante et animatrice des filles à l'école primaire Tiro 2, explique au micro de Ahmed Félan.
On a eu une formation à Agadez sur différentes thématiques, par exemple les menstrues à l'école qui interviennent chez les jeunes filles. Souvent, les jeunes garçons ont tendance à se moquer des jeunes filles par rapport à ça. Actuellement, on est en train de répertorier ça dans différents niveaux, par différentes séances. Par exemple, on a jusqu'à 6 séances à faire. Là, on vient de finir les 2 premières séances. On fait écouter un sketch aux élèves. Suite à l'écoute de ce sketch, on fait décortiquer les différents problèmes, n'est-ce pas? Et on utilise ça avec les élèves pour voir quels sont les caractères à revoir et on voit les compétences espace de vie par rapport à ça, les résolutions. Surtout que dès qu'on dit une sensibilisation qui touche un peu l'intimité des jeunes filles, ça va un peu à l'encontre des parents d'élèves. Ils voient ça de façon un peu ardue. Pour eux, c'est trop intime. C'est vraiment un sujet tabou qu'ils n'osent pas aborder avec leurs enfants. Mais nous, on pense que c'est une situation dont on doit prendre en main.
Sport football, la nouvelle saison de la Super League 2022-2023 débutera demain au Niger. L'annonce a été faite ce matin par la Fédération nigérienne de football au cours d'un point de presse à son siège. Suivez un extrait de l'intervention du président de la Commission centrale de compétition de la FENIFOOT, Oumar Himsoulay.
Après 3 mois d'arrêt, nous voici aujourd'hui à la veille du démarrage de ce championnat phare. La compétition majeure qui est la Super League. Donc la FENIFOOT est encore une fois aussi au rendez-vous pour l'organisation de ce championnat, comme je l'ai dit tout à l'heure, au rythme duquel les 16 équipes engagées et les acteurs vont vibrer durant pratiquement 8 mois de compétition, qui, ma foi, j'avoue, va être vraiment acharné, va être vraiment un championnat très très difficile, compte tenu de beaucoup de paramètres. Le premier paramètre va être notre participation en janvier au CHAN. Donc d'abord, nous avons eu même des difficultés dans un premier temps pour établir le calendrier, qui n'a pas été facile pour nous, compte tenu de l'engagement de l'équipe nationale et à la compétition CHAN en janvier. Aussi, nos deux clubs qui ont participé des éliminatoires de compétitions interclubs. Dieu merci, nous avons pu arriver à un calendrier consensuel.
Magazine de ce journal, nos écosystèmes se dégradent et des espèces animales disparaissent, tout ceci causé par le réchauffement de la planète. C'est dans ce contexte que s'est ouverte la 27e édition de la conférence des parties sur les changements climatiques COP27 en Égypte. La rencontre mobilise dirigeants, la société civile et experts du monde pour trouver une solution au réchauffement de la planète. Quels sont alors les enjeux pour le Sahel? Réponse dans ce magazine coproduit par les médias de la Fondation Hirondelle au Sahel. Les studios Yafa, Tamani et Kalungu. Il est présenté par Mohamed Babakunta.
Le Mali est représenté à cette COP27 par une délégation composée d'une cinquantaine de personnes conduites par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable. Concernant les enjeux pour le pays, les autorités de la transition mettent notamment l'accent sur l'accès au financement. Drissa Doumbia, point focal national changement climatique pour le Mali.
Depuis Copenhague en 2009, on parle de financement, mais en réalité, le financement disponible, quand on fait une évaluation, ce qui est disponible par rapport aux besoins, on verra que il y a un grand écart. Donc, il s'agit pour nous de mettre la pression au sein de nos groupes de négociation sur la communauté internationale de respecter ses engagements en termes de financement, en termes d'appui et en termes de transfert de technologies aux pays en voie de développement comme le Mali. Donc, les enjeux sont à ce niveau.
Avant le démarrage de cette COP27, des jeunes activistes ont organisé une conférence sur le climat à Niamey au Niger. Les échanges ont porté sur les enjeux de la conférence sur les changements climatiques. Sani Ayouba, directeur exécutif des jeunes volontaires pour l'environnement.
Plusieurs jeunes ont été sponsorisés par des institutions et vont renforcer la délégation nigérienne de la COP pour porter les messages de notre jeunesse, porter les évidences. Parce que vous savez, au Niger, nous souffrons trop des inondations, de l'impact des sécheresses. Donc c'est pour porter ces messages et puis porter aussi les bonnes pratiques qui sont développées par nos communautés pour rester plus résilientes face aux crises des catastrophes et continuer dans les plaidoyers pour que la COP soit une COP africaine, une COP qui répondra en tout cas aux attentes des communautés.
La lutte contre les changements climatiques est une question d'urgence. Cependant, il est important que les actions climatiques soient au cœur des décisions qui seront prises durant les négociations de cette COP. C'est le souhait de la jeune burkinabé Risnata Ouedraogo.
Mon message à l'endroit des représentants de la jeunesse à la COP27, c'est qu'ils puissent plaider à notre place et demander aux grands leaders du monde et les acteurs climatiques et les acteurs environnementaux de renforcer leur engagement en faveur du climat et aux plus grands pollueurs de fournir des efforts pour aider à protéger le continent.
Notons que cette COP27 se tient dans un contexte où de nombreux experts se demandent comment sauver l'accord de Paris sur le climat. Cet accord a pour but de lutter contre la pollution afin de protéger la planète, mais les contributions des pays restent insuffisantes à ce stade, déplorent des environnementalistes.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Ne quittez surtout pas, nos programmes se poursuivent.